N'y avait-il au fond rien de plus mystérieux que l'amour? Quelle est donc cette énigme qui nous pousse à chercher l'âme sœur quand nous sommes en droit de penser qu'elle n'existe pas entièrement et que, dans cette quête, nous rencontrerons au moins autant de joies et de bonheurs que de peines et de déceptions? Chacun de nous sait, secrètement ou non, qu'il n'y a rien de plus rare et de plus éphémère qu'un amour heureux, et pourtant, nous nous efforçons de le chercher encore, tel l'agnostique poursuivant ce livre qui n'existe pas, tel Andreas fouillant l'infiniment petit, et alors il est de l'humble avis de celui que vous avez bien voulu lire jusqu'ici, que l'on ne devrait point tant chérir l'être aimé que l'amour lui-même, et se demander si l'amour, au fond, ne serait point le dernier mystère qui subsistera quand nous aurons éliminé tous les autres. À celui-là, invisible et pourtant si puissant, certains donnent le nom de Dieu, et ils lui prêtent alors des intentions, une stratégie. Quand nous pensons, nous, qu'en lui donnant ses attributs, nous lui enlevons sa pureté et son essence même. L'amour n'a pas de barbe. L'amour n'a pas de loi. Il n'a ni prophète, ni prêtre, ni pape, ni guerrier. Il est le sens le plus profond que l'on puisse donner à une vie. Et il n'est que cela. Andreas ferma les yeux et tenta de repousser le visage de Magdala qui hantait encore toute son âme. Puis, avec la plus grande des précautions et la plus grande des émotions aussi, il commença à dérouler le texte du Chatyrum Lamium. Le papyrus, asséché par le temps, craqua ici et là, s'effrita quelque peu, éparpillant des petits morceaux sur le bureau. Et il fallut à Andreas faire preuve d'une grande adresse et d'une grande patience, à la lumière de sa bougie, pour aplatir doucement devant lui les premières pages de l'antique manuscrit. Lors, le cœur battant, le front plissé par l'appréhension, il lut la première phrase de ce livre qu'il avait si péniblement cherché. À sa propre surprise, il n'eut aucunement besoin du lexicon d'Avicenne pour traduire dans sa tête les premiers mots de ce texte si long. Et alors, son visage se transforma en une expression qui était à mi-chemin entre la stupéfaction et l'amusement, peut-être. Car voici, cher lecteur, ce que disait la première phrase du livre. Il vécut à Paris en l'an 1313, un homme sans famille qui allait du nom d'Andreas Saint-Loup, mais que d'aucuns appelaient l'apothicaire. Et, quand on le désignait ainsi, nul n'ignorait qu'il s'agissait de celui-là. Épilogue, chapitre 153. Robin fut réveillé par les premiers rayons du soleil qui étaient entrés par la fenêtre de la petite chambre. Confus, il lui fallut quelques instants pour se souvenir de l'endroit où il se trouvait. Ils avaient tant voyagé. Et puis cela lui revint. Étampes, l'hôpital Saint-Antoine, Magdala. Il tourna lentement la tête et regarda Alice qui dormait près de lui. Elle avait l'air si serein, si tranquille. Et elle était si belle, avec son visage fin et doux, son nez gracieux, ses fossettes, ses sourcils délicats qui par moments se soulevaient un peu dans son sommeil. Sa longue chevelure châtaine courait sur ses épaules dénudées et leur faisait une couverture de soie. Il resta ainsi un fort long moment à savourer la douceur de cette figure endormie, à admirer les courbes de cette femme qui, cette nuit, lui avait fait l'amour. Lentement, la jeune fille se réveilla, et l'émeraude de ses yeux apparut comme pour achever d'une dernière touche de couleur ce si joli tableau. En le voyant qui était là à la regarder, Alice eut un premier geste de recul, d'incompréhension, puis, retrouvant à son tour ses esprits, elle sourit et s'étira comme le font les félins. Robin passa sa main dans ses cheveux et lui caressa le visage. « Je t'aime, » murmura-t-il. Elle poussa un soupir de contentement, puis, s'appuyant sur son coude, elle se glissa vers lui, se blottit dans ses bras et l'embrassa longuement. Ils étaient restés un long moment dans cette tendre paresse quand, enfin, ils se décidèrent à se lever. Ensemble, ils s'habillèrent, rassemblèrent leurs affaires et descendirent au réfectoire de l'hôpital Saint-Antoine pour prendre un déjeuner. Après avoir salué le père Gineste, ils sortirent du bâtiment